Le Labo des Savoirs, l'émission qui explore tous les champs de la science et invite les chercheurs au microscope, c'est tous les samedis à 13h sur Radio G 101.5 FM. Chroniques, reportages, interviews, expériences radiophoniques. Et retrouvez toutes les émissions en podcast sur le site internet labodessavoirs.fr.
Activez vos synapses. Poussez la porte du Labo des Savoirs et entrez dans un monde de science et d'expérience. C'est le Labo des Savoirs.
Qu'on l'utilise pour les vacances, pour les courses, pour aller chercher les enfants, comme discipline sportive ou comme beaucoup de gens, pour les déplacements quotidiens, le vélo prend de plus en plus de place dans nos vies et nos villes. Des panneaux spécifiques, des aménagements colorés, des pistes séparées des voies-voitures, on avance pour faciliter la pratique du vélo au quotidien pour toutes et tous. Alors même si vous n'avez aucune idée de ce qu'est une patte de dérailleur ou une attache rapide, on vous emmène pédaler avec nous. Pour cette émission magazine du Labo des Savoirs, nous serons accompagnés de bénévoles incroyables. Vous entendrez Cécile. Bonjour.
Bonjour, Célie.
Tu nous parleras de vélo comme on n'a pas l'habitude d'en voir. Et tu as aussi tendu le micro à une utilisatrice pour un témoignage sur le vélo et le handicap. On a aussi Étienne.
Bonjour.
Bonjour. Tu as choisi de revenir en arrière pour comprendre d'où vient cette invention à deux roues dans l'histoire. Salut Julie.
Bonjour Célie.
Toi, tu es une grande adepte du vélo et du féminisme, et c'est donc tout naturellement que tu as choisi de nous parler des deux. Ça s'appelle le cycloféminisme, et si vous ne voyez pas le rapport, restez écoutés, c'est important. Autour de la table, il y a également Sophie, qui est là parce qu'il y a de la lumière et qu'on l'adore.
C'est trop mignon. Ouais, j'ai trop envie d'être avec vous, donc je suis là pour écouter parler vélo, ça me passionne.
On entendra également un reportage tourné par notre Sophie et monté par notre Julie, au Festival des Increvables qui avait lieu à Nantes les 9, 10 et 11 mai dernier, où nous entendrons Sophie et Julie nous parler de leurs associations.
Le son des sciences au Labo des Savoirs.
Quand on partait de bon matin, quand on partait sur les chemins, à bicyclette, nous étions quelques bons copains, il y avait Fernand, il y avait Firmin, il y avait Francis et Sébastien.
Qu'on fasse du VTT de descente ou du cyclisme sur piste en salle, qu'on utilise les vélos en libre service pour rentrer chez soi ou retrouver des amis, qu'on squatte le porte-bagages d'un copain ou d'une copine, ou qu'on regarde assidûment le Tour de France tous les ans, alors qu'on n'y comprend pas grand-chose en vrai, on a presque toutes et tous un lien avec le vélo. Le baromètre vélo, c'est une grande enquête lancée par la Fédération des utilisateurs et utilisatrices de la bicyclette, ou la FUB pour les intimes. La dernière en date date de 2021, et celle de 2025 vient tout juste de se clôturer. Cette enquête permet aux cyclistes, en France, de noter leur commune selon plusieurs critères par rapport à leur pratique du vélo. Ces critères sont répartis en plusieurs grandes catégories, la sécurité, le confort, les espaces de stationnement, les efforts faits par la ville, et enfin le ressenti global. La carte des résultats sera disponible en description du podcast. Certaines communes sont très bien notées. Ce sont souvent des communes proches des côtes et touristiques, comme autour du bassin d'Arcachon ou le long de la côte vendéenne. D'autres communes, au contraire, le sont beaucoup moins, telles que Marseille. L'enquête de 2025 nous dira si des évolutions ont eu lieu depuis 4 ans. Mais le vélo, ce n'est pas uniquement en ville et pour les déplacements quotidiens. Pour quelques personnes, c'est un métier. L'UCI, ou l'Union Cycliste Internationale, recense 11 disciplines cyclistes principales, telles que le cyclisme sur route, le VTT, le trial ou encore le paracyclisme, qui donnent lieu à des compétitions tout au long de l'année, été comme hiver. Pour d'autres, c'est une pratique sportive plutôt classique, qui permet d'être dehors, d'explorer la nature, de découvrir le monde autrement. À vélo, tout va plus lentement. On prend le temps d'observer ce qui nous entoure, de s'arrêter, en allant tout de même un peu plus rapidement qu'à pied. Depuis quelques années, je monte sur mon, puis mes vélos, de plus en plus souvent. Je voyage, je découvre de nouveaux paysages, je rencontre de nouvelles personnes et fais grossir la circonférence de mes cuisses. J'apprends aussi à quoi correspond ce fameux braquet dont on entend souvent parler. Je sais faire la différence entre des freins à disque, des freins mécaniques, hydrauliques, des V-breaks et autres types de freins. Bon, du coup, ce fameux braquet, c'est quoi ? Attention, instant mathématique, on n'est pas au labo des savoirs pour rien. Alors, le braquet, c'est le rapport entre le nombre de dents du plateau, donc le truc avec des dents au niveau de la pédale, à droite, et le nombre de dents du pignon, qui lui est situé sur la cassette au niveau de la roue arrière. Il va déterminer la distance parcourue à chaque coup de pédale. Donc, plus le braquet est grand, plus on aura besoin de puissance pour pédaler. Et à l'inverse, plus le braquet est petit, moins on aura de puissance. Le premier est pratique à plat et en descente, l'autre l'est plutôt en montée. Mais les vélos n'ont pas toujours eu de pédaliers, de cassettes ou même de pédales. Étienne va nous parler de la forme du vélo à travers les âges. Et pour cela, il s'est basé sur le documentaire de France Culture intitulé « La vélo-révolution, histoire d'un objet en pièces détachées » et d'autres ressources que vous pourrez retrouver en description. Installez-vous bien, respirez un grand coup et laissez-vous transporter.
En effet, Céline, je vais vous demander à toutes et tous de vous laisser emporter. Une chronique radio sur la forme du vélo. Parler des aspects visuels, sans visuel, c'est nickel. Alors fermez les yeux, laissez-vous aller. Voyage merveilleux, audio-description, endiablé. J'arrête les rimes pour la suite, point d'inquiétude. 1815, éruption du volcan Tambora en Indonésie. L'une des plus importantes de l'histoire. 8 fois plus puissante que celle du Vésuve. 10 000 fois plus puissante que la bombe nucléaire d'Hiroshima. Les nuages de cendres se répandent dans le monde, empêchent les récoltes, provoquent les famines. On se résout à tuer des chevaux pour les manger. Seulement les chevaux, à l'époque, ils permettent de se déplacer. C'est dans ce contexte que l'on cherche une alternative. 1817, en Allemagne, le baron de Dresse invente sa Laufmaschine, machine à courir, nommée en son honneur Dresienne. On est ici sur un engin tout de bois construit, pesant environ 25 kg, constitué de deux roues de même taille en ligne, pour la première fois de l'histoire. Mais pas encore de pédales. On avance directement, poussant avec ses pieds au sol, comme avec les petites voitures des enfants, ou comme avec l'objet de leur premier pas vers le vélo, que l'on appelle encore aujourd'hui Dresienne. Le brevet de 1818 de ce premier ancêtre du vélo sera sous le nom de vélocipède, qui donnera son appellation bien des années plus tard à notre ami à deux roues non motorisé. La Dresienne connaîtra malheureusement un succès mitigé et uniquement chez les plus aisés, jusqu'à ce que... Au début des années 1860, le français Pierre Michaud décide d'ajouter à la Dresienne des pédales sur la roue avant, afin de l'actionner sans plus poser ses petons au sol. Cette Dresienne à pédales sera nommée la Michaudine. Léger manque d'originalité dans le nom de ces véhicules, je vous l'accorde. La Michaudine connaît un grand succès à partir de 1867 avec la première exposition universelle. Et malgré une bataille juridique pour l'exploitation de la marque avec les frères Olivier qui l'ont racheté, de nombreuses améliorations seront petit à petit apportées. Diminution du poids, amélioration des roulements, premier ajout de la roue libre. Mais en 1870, la guerre franco-allemande limite l'industrie française et les Anglais contre-attaquent avec une nouvelle invention, le grand bi. Pour gagner en vitesse, l'idée est d'agrandir très largement la roue avant afin que chaque coup de pédale entraîne un déplacement mécaniquement bien plus grand. Seule la roue avant est agrandie et la roue arrière diminue même en taille, donnant une espèce de grand monocycle, mais avec une petite roue arrière. Et ça marche, enfin ça roule, mais de manière pour le moins instable. Il faut monter sur un marchepied pour atteindre le haut de l'engin tout en ayant déjà de la vitesse pour ne pas tomber. Problème inverse pour s'arrêter, où il faut lentement ralentir pour descendre du véhicule avant l'arrêt complet. Et même une fois lancé, de nombreuses chutes sont encore constatées. Bref, ça va vite, mais c'est vraiment casse-gueule. Heureusement, en 1884, le Britannique John Kemp Starley invente la bicyclette de sécurité, avec deux roues pas trop hautes et de la même taille pour, comme son nom l'indique, plus de sécurité. La perte de vitesse due à la diminution de la taille de la roue avant est compensée par l'entraînement, cette fois de la roue arrière, à l'aide d'une chaîne, comme sur nos vélos modernes. Dans les années 1880 et 1890, l'Angleterre, la France notamment avec Peugeot et l'Allemagne, se livrent une guerre commerciale sans merci, ni thank you, ni danke, pour la bicyclette, maintenant produite en masse. Des centaines de brevets sont déposés et les pneus sont ajoutés, d'abord avec Dunlop en 1888, puis avec Michelin et ses pneus facilement démontables en 1891. Petite anecdote d'ailleurs, pour la promotion de ses pneus, Michelin a organisé une course en mettant plein de clous sur la route, afin de montrer l'intérêt du démontage facile en cas de crevaison, faisant exploser les ventes de la marque. Exploser, vous l'avez ? À la fin du 19e siècle, les bicyclettes ressemblent déjà à nos vélos modernes et deviennent les reines des villes, avant que la voiture ne vienne prendre leur place sur le bitume. Mais ceci est une autre histoire et une autre chronique. Tant d'aventures pour atteindre maintenant notre vélo qui du CO2 sauve la planète, qui file dans les villes comme le vent et nous offre en campagne des balades enchanteresses.
C'est bon, vous pouvez ouvrir les yeux. Merci Étienne pour ce voyage en chronique dans l'histoire du vélo. Alors on l'a vu, les vélos ça évolue vite. Il y a désormais des vélos, même avec des réservoirs d'eau intégrés, des dérailleurs sur batterie, certains faits en carbone ou en titane. Cependant, il y a des choses qui ne changent pas vraiment. Alors pour des soucis pratiques, j'évacue ici les monocycles, les tandems et les draisiennes. Un vélo aura toujours besoin de quelques éléments essentiels. Un cadre, une fourche, des roues avec des pneus, pour le confort c'est mieux, une selle, un cintre ou un guidon, des pédales avec une chaîne, un pédalier et à minima un pignon. Donc on pourrait s'arrêter là, on a un vélo à pignon fixe ou un vélo en single speed avec une seule vitesse. Mais souvent on ajoute quand même des freins, c'est pratique, des pignons un peu en plus, un dérailleur, voire un porte-bagages ou un garde-boue pour le confort. Pour la sécurité, il est également recommandé d'avoir des lumières et éventuellement des catadioptres. Vous savez, ces petits objets orange qui réfléchissent la lumière sur les rayons ou les pédales. Et puis, pour les imprévus, il est toujours utile d'avoir éventuellement une chambre à air, des démonte-pneus, une pompe et puis des outils pour les premières réparations et les réglages sur son vélo. J'en ai cité quelques-uns depuis le début de l'émission. Il y a effectivement beaucoup de vélos différents. Et même des gens qui s'amusent à en construire des nouveaux, plus hauts, plus grands, plus légers. Est-ce que vous, autour de la table, vous avez déjà vu des vélos un petit peu incongrus, décorés ou originaux ? Sophie ?
Moi, je me suis mis au vélo récemment, puisqu'avant, j'en avais un quand j'étais petite, et depuis, je me déplaçais en transport en commun. Et depuis que je me suis mis au vélo, j'en croise des curieux. Mes préférés, c'est ceux qui sont décorés, où ils mettent des petites fleurs sur les paniers. C'est trop cute, j'ai envie de faire ça sur le mien. Et sinon, j'ai vu un monsieur hier qui pédalait allongé, et ça m'a beaucoup surpris. Et je ne savais pas si c'est confortable ou si c'est plus contraignant. Mais ça me donne envie d'essayer.
Il y a des gens qui sont vraiment très, très bas.
À tester.
Julie ?
Moi, j'ai rencontré récemment, mais sur le parking d'un supermarché, une personne qui avait du coup confectionné son vélo, enfin qui avait adapté son vélo pour partir en voyage pendant un an avec ses enfants. Et donc sur son vélo, il y avait à la fois un espace pour mettre un enfant, mais pas juste un siège qu'on enlève, voilà, et un espace devant. Donc il y a vraiment une espèce de rectangle d'assises devant le guidon du vélo, avec une ceinture et tout, pour pouvoir trimballer ses enfants pendant un an en voyage à vélo. Je trouvais ça formidable.
Cécile ?
Et alors, pour ceux qui n'ont pas d'enfants, mais qui ont un chien, eh bien, il existe le Buddy Rider. C'est un genre de selle que tu rajoutes pour mettre ton chien. Alors, évidemment, ça marche pas très bien avec un Doberman. Ça marche beaucoup mieux avec un petit chien. Et du coup, moi, j'ai le plaisir de me balader avec ma sœur et mon beau-frère qui ont un petit chien et le Buddy Rider. Et c'est trop fort parce que les gens se retournent tous, ils sont là, oh c'est trop mignon, oh le petit chien, oh, et c'est un plaisir quoi.
Vas-y.
Et ouais, moi de mon côté, petite anecdote, j'ai une amie qui a un ami non voyant, et donc ouais, l'utilisation du tandem, je connaissais pas pour aider avec quelqu'un de non voyant et assez pratique.
Eh bien, ça fait une transition incroyable et je vais laisser la parole à Cécile qui, elle, s'est justement intéressée à d'autres types de vélos et notamment le vélo dans le cadre de personnes en situation de handicap.
Oui, c'est ça. Merci Célie. Et du coup, merci Étienne pour cette introduction parfaite. Donc, le vélo est un outil d'émancipation indéniable. Et j'ai une bonne nouvelle pour toutes les personnes atteintes de handicap qui nous écoutent et leurs accompagnants. Il y a de grandes chances pour qu'un vélo vous soit adapté. Et oui, ce n'est pas parce qu'on est en fauteuil roulant, qu'on marche avec l'aide d'une canne ou qu'on a un déficit cognitif ou visuel qu'on ne peut pas goûter aux joies du cyclisme. Si vous êtes solo ou que vous préférez avoir votre propre bolide et que vous êtes en capacité de pédaler ou de mandaler, c'est-à-dire pédaler avec les mains, il existe une myriade de tricycles. Le tricycle permet une grande stabilité avec ses deux roues à l'arrière ou à l'avant, comme celui proposé en location longue durée dans notre ville préférée, Nantes. Selon le handicap, le tricycle peut être plus ou moins bas, de la position assise avec une selle ou un siège, jusqu'à la position couchée, tu en parlais Sophie, pour les handicaps touchant le buste. Mais bien sûr, on peut utiliser ce genre de vélo même si on n'est pas handicapé. Comme je l'évoquais plus tôt, la propulsion peut se faire avec un pédalier, mais aussi par les mains avec un mandalier pour les personnes présentant une amputation ou une paralysie des membres inférieurs. Pour les personnes pouvant pédaler mais ayant une limitation de la flexion du genou ou de la hanche, je vous présente le pédalier excentrique. J'ai découvert ça en préparant cette chronique et je trouve cette invention très ingénieuse. L'entreprise Van Ram, avec deux A, propose donc un pédalier avec d'un côté une pédale qui fait des tours de diamètre classique et de l'autre une pédale qui fait de très petits tours pour s'adapter au manque de mobilité d'une des deux jambes. Si vous êtes en fauteuil, il existe des appareils de traction tels qu'une roue motorisée qui vient s'attacher sur le devant du fauteuil. Et croyez-moi, pour m'être fait dépasser en vélo par une pilote de cet engin, ça envoie. Une personne en fauteuil peut aussi être tractée, poussée ou carrément embarquée sur une plateforme poussée par un vélo.
Mais tu nous as parlé, et Étienne aussi, de handicap visuel. Est-ce que c'est pas un peu dangereux ?
Alors, bien évidemment, là, il faut être accompagné et c'est l'accompagnant qui est aux manettes. Mais pour les personnes atteintes de handicap visuel ou cognitif, eh bien, comme tu l'as dit, Étienne, on oublie souvent le grand classique du cyclisme, le tandem, donc avec une personne valide. Pour rappel, le tandem, c'est un seul vélo avec deux places, donc deux paires de pédales. Il peut être classique, un devant, un derrière sur une selle, mais également adapté avec une place assise à l'avant, comme le Pinot de chez Ace Bikes, que j'ai eu le plaisir de tester. Et je peux vous dire que la place à l'avant, qui ne possède ni frein ni direction, en descente à 40 km/h, ça fait de sacrées sensations. Une autre découverte pour moi, le tricycle à deux, le Fun to Go, toujours de chez Van Ram, où les cyclistes sont côte à côte. Auquel on peut atteler un fun train, le fun to go mais sans la roue avant, et ça fait genre un genre de Rosalie personnelle pour partir à l'aventure en équipe. Incroyable. Et bien sûr, toutes ces options existent souvent avec ou sans assistance électrique. L'avantage aujourd'hui, c'est qu'avec la démocratisation des vélos cargo, livreurs à vélo et autres vélos atypiques, utiliser un vélo adapté est de moins en moins stigmatisant, mais il reste encore beaucoup de chemin à parcourir, notamment sur l'adaptation de l'environnement. Par exemple, à Nantes, l'interdiction de l'hypercentre aux voitures et la limitation de vitesse à 30 km/h permet un apaisement du trafic qui est bénéfique pour tous et notamment aux personnes atteintes de handicap cognitif, par exemple. Nantes a également reçu en 2024 le prix Talent du vélo pour son premier emplacement vélo réservé aux personnes à mobilité réduite.
Et concernant les aides financières, parce que j'imagine que des vélos aussi complexes, ça doit coûter un petit peu cher.
Oui, effectivement. Encore beaucoup d'efforts à faire là-dessus. Il existe une prise en charge par l'assurance maladie, environ 600 euros. Une des aides de la maison départementale des personnes handicapées et un bonus vélo de l'État qui va jusqu'à 2000 euros pour un vélo adapté. Mais encore faut-il l'obtenir. Et ça paraît beaucoup, mais c'est bien peu quand on sait qu'un vélo adapté peut coûter jusqu'à 12 000 euros selon les modèles.
Ah oui.
Ouais. Comme d'habitude, on a bien avancé, mais la route est encore longue. Et si vous souhaitez tester avant d'acheter, c'est possible avec la location ponctuelle ou la location longue durée. Groupe à vélo propose même des séjours itinérants en groupe à vélo et en hébergement adapté.
Merci Cécile. Et tous les types de vélos que tu viens de citer dans ta chronique seront à retrouver sur le Labo des Savoirs pour les intéresser. Alors on parle de vélo adapté, mais ça fait quoi d'en utiliser un ? Alors Cécile, toi tu as pu enregistrer le témoignage d'une utilisatrice d'un vélo Pino. On va écouter.
Bonjour Sylvie, donc tu es l'heureuse détentrice d'un vélo Pino. Donc je rappelle, le vélo Pino c'est un tandem avec une place à l'avant assise et les pédales qui sont devant toi. Alors ma première question c'est comment est-ce que tu as entendu parler de ce vélo et est-ce que tu as eu besoin de faire des recherches pour le connaître ?
C'est un pur hasard, j'étais en vélo dans les rues de Nantes, près du quai de la Fosse, et j'ai vu deux personnes qui étaient sur ce vélo-là. On était au feu rouge, donc je leur ai dit que leur vélo était trop bien, qu'il avait l'air confortable. Ils m'ont donné la carte du monsieur qui loue les vélos à Clisson, donc Igor. Et j'ai ramené ça à la maison, j'en ai parlé à Alex, et il a loué ce vélo-là pour c'était mon anniversaire ou Noël, je sais plus. Et donc on a testé d'abord un vélo électrique et après un vélo sans assistance électrique.
Donc ma deuxième question, c'est pourquoi tester un vélo adapté ?
Parce que moi j'ai des problèmes d'épaule et donc faire du vélo, alors au quotidien en ville ça va, mais c'est essentiellement sur les chemins, avec les secousses, ça me fait mal aux épaules. Et j'aime beaucoup faire du vélo, donc je trouvais ça un peu frustrant de pas pouvoir en faire autant que je voulais. Ce vélo-là, on n'a pas du tout de vibration dans les épaules puisqu'on est assis et que c'est le pilote qui est derrière qui commande le vélo. Donc j'utilise pas du tout mes bras et c'est hyper, hyper bien, hyper confortable.
Ma dernière question, c'est est-ce qu'il y avait quelque chose de compliqué ? Est-ce que certaines choses sont mal faites ? Est-ce que toi, tu aurais fait dans ce vélo-là certaines choses différemment ?
Non, pour le moment, je vois pas. Ça fait 2 ans qu'on l'a et donc on a pas mal fait de vélo. Mais c'est un vélo qui a déjà une 30aine d'années. Donc il a été très réfléchi. Il y a d'autres prototypes. Il y a des petites choses qui sont améliorées, mais on peut fort bien les modifier. Alors moi, j'ai changé les pédales parce que c'est des pédales automatiques avec une chaussure qui s'éclipse. Mais moi, j'aime pas parce que la chaussure, elle est beaucoup trop rigide. Donc j'ai adapté. J'ai mis un scratch, en fait, pour pouvoir maintenir mon pied. Parce que comme le pied est à la verticale et pas à l'horizontale, s'il y a des bosses, mon pied peut tomber. Donc c'est un peu embêtant. Mais sinon, non, c'est hyper bien réfléchi. On a la dernière version qui permet de pouvoir l'agrandir et le rétrécir complètement, ce qui fait qu'on peut le mettre sur un porte-vélo, on peut l'emmener dans le train aussi. Donc c'est vraiment un vélo qui est hyper bien conçu et il y a même des gens qui ont fait des tours du monde avec leurs enfants, etc. Parce que c'est un vélo qui peut s'adapter pour des enfants et on peut mettre devant une personne jusqu'à 1m90.
Donc un vélo adapté et super adaptable.
C'est ça.
Est-ce que tu veux nous dire quelque chose de plus sur ce vélo, Sylvie ?
Oui, alors ce qui est hyper intéressant, c'est que donc moi j'ai l'usage de mes deux jambes, mais et donc je peux faire du vélo. Comme j'ai une jambe qui est un peu moins forte que l'autre, on a pu adapter donc avec l'aide d'Igor, celui qui nous a loué le vélo à la base et chez qui on a acheté le vélo. Donc on peut tout adapter, réduire la longueur des pédales, etc. Ce monsieur-là fait aussi de l'adaptation pour par exemple si une personne est hémiplégique, on peut adapter en mettant qu'une seule pédale et puis une gouttière pour la jambe qui fonctionne pas. Et il l'adapte aussi pour des personnes qui n'ont pas l'usage de leurs jambes et il a mis un mandalier à main. Donc ça veut dire que la personne peut pédaler avec ses mains. Et voilà, c'est aussi adapté pour des personnes malvoyantes, pour des personnes qui ont des handicaps moteurs, enfin toutes sortes de handicaps. Et voilà, je vous conseille d'aller le voir, il est très sympa en plus.
Merci beaucoup Sylvie.
Donc merci beaucoup à Sylvie et à toi Cécile d'avoir mené cette interview, témoignage très inspirante. On voit bien que dans les vélos, on peut y faire plein de choses. On peut les modifier, on peut les adapter à nos besoins, à nos envies. Mais parfois, on a juste envie de se faire plaisir. Est-ce que vous avez vos petits plaisirs pour les cyclistes autour de la table ? De trucs que vous aimez bien avoir ou de petits gadgets de vélo ou où est-ce que vous mettez vos sous autour de votre vélo ? Sophie.
Alors moi j'ai pas encore le plaisir d'avoir acheté plein de gadgets de vélo parce que je viens juste de me remettre au vélo donc déjà
j'ai pas assez de lumière, ce qui est dangereux pour la sécurité routière, donc c'est les premiers achats que je vais faire. Mais il y a pas longtemps, j'ai fait un long trajet en vélo dans la ville de Nantes et au retour, j'étais quasi seule un dimanche et j'ai descendu toute une pente de Saint-Herblain jusqu'à l'île de Nantes. Et c'est absolument génial puisque comme Nantes est plutôt bien aménagée, il y a des vraies pistes cyclables. J'étais seule en descente à fond dans une zone cyclable protégée, séparée des voitures, que je doublais par ailleurs, puisqu'elle devait se taper des feux rouges qui n'étaient pas valables pour moi. Donc c'était un plaisir absolu. Et donc je me demande pourquoi j'ai attendu tant d'années pour faire du vélo. C'est génial.
Je rebondis aussi sur le fait que tu n'aies pas de lumière. Sache que c'est obligatoire également.
J'en ai, mais pas suffisamment.
Parfait.
Et je rebondis plus positivement du coup sur le fait de doubler les voitures. C'est vrai que c'est quand même un des grands kiffs du vélo de passer par la droite quand ils sont dans les bouchons. C'est quand même assez bien quand il y a des belles pistes.
Même si il faut faire attention parce que les voitures qui tournent, elles nous ont pas en tête. Quoi. C'est vraiment...
L'angle mort, c'est pas trop...
Non, c'est... Oui.
Oui. Il faut considérer que potentiellement, on n'est pas vu.
Ouais. Donc, une nouvelle passion pour la vie cycliste. Bienvenue dans la team, Sophie.
Ravie.
Alors, moi, ce n'est pas des achats que j'ai déjà faits, mais c'est des choses que j'aimerais bien, à l'avenir, faire. D'une part, il y a le fait d'avoir une selle plus adaptée à des morphologies dites féminines, on va dire, donc, ou en tout cas avec des personnes qui n'ont pas un pénis. C'est des selles qui sont ovales, voilà, c'est assez rare d'en croiser, mais c'est tellement plus confortable que les selles en forme de sexe masculin, hein, voilà, je ne sais pas comment dire ça autrement. Parce que ça appuie pas sur la vessie et du coup c'est vraiment plus agréable. J'en ai pas encore trouvé à des prix accessibles malheureusement, mais c'est un projet. Et c'est pas vraiment sur mon vélo, mais c'est quand même des accessoires de vélo. C'est des accessoires pour faire du cyclotourisme parce que j'adore le cyclotourisme. Et chaque année, quand j'en fais un, j'achète de nouvelles choses, donc de nouvelles sacoches ou de nouvelles petites pochettes pour ranger mes petites affaires. Et ça, c'est un vrai kiff d'avoir chaque année d'upgrade mon matériel et de me dire « Oh, je suis encore mieux préparée. J'ai une plus belle cape, j'ai un meilleur casque, voilà, j'ai de plus belles sacoches, elles vont être trop pratiques à transporter. » Voilà. Donc j'adore faire ça.
Tu souris de joie. J'adore en y pensant.
Moi, je suis moins dans la praticité, mais j'aimerais trop avoir... C'est des petits trucs de couleurs qui se mettent sur les rayons. Et il y en a de toutes les couleurs. Et voilà, j'aimerais trop avoir ça. Mais en vrai, j'ai déjà pimpé mon vélo grâce à ma sœur. Encore une fois, elle est... très présente dans cette émission pour moi, qui a une découpeuse. Et du coup, j'ai baptisé mon vélo, j'ai découpé des lettres dans un plastique, en plus de toutes les couleurs. Et du coup, c'est marqué Shadowfax sur le cadre de mon vélo. Shadowfax, qui est donc en anglais le destrier de Gandalf. Voilà.
Incroyable. Sache que je fais la même chose et que j'ai également découpé à la machine le nom du vélo d'une de mes copines. Et je fais des petits autocollants trop mimes et je les donne aux gens et ils les collent sur leur vélo. Et c'est vraiment, genre, des fois je les vois, je suis là, wow, trop stylé. Attention, je vais avoir des commandes à passer. On a toujours envie d'avoir... moi, je trouve que dans ce qui coûte cher aussi, dans le vélo, c'est l'entretien. On ne fait pas suffisamment de prévention sur les pièces de ton vélo sont du consommable, donc la chaîne se change, la cassette se change, les freins se changent, enfin les capes de frein, les plaquettes, les patins et tout ça. Ou même tu peux changer tes pédales pour avoir des nouvelles pédales qui clipent. Ou récemment je me suis acheté du coup mes chaussures pour être accrochée à mon vélo comme les pros. Voilà, donc c'est plutôt sur ces petits trucs-là. Et puis récemment je me suis acheté une lampe un peu plus puissante pour pouvoir voir dans les chemins la nuit. Étienne.
Eh ben moi j'ai plutôt une pratique du vélo très déplacement quoi. Et c'est vrai qu'il y a quelques petits trucs qu'on ajoute souvent petit à petit. Donc je suppose que vous les utilisez, mais j'ai un peu un top 3 des trucs pratique.
On veut savoir.
Sur le vélo. Déjà, enfin, le fait d'avoir tout de base sur le vélo, moi, je trouve ça assez pratique. D'avoir les garde-boue, déjà le truc à l'arrière, même la lumière en dynamo pour pas se retrouver en sans lumière. Mais sinon, ouais, top 3, le truc de pluie. Bon, Nantes, très jolie ville, mais bon, ça arrive qu'il pleuve, malheureusement. Donc ouais, la totale pluie avec la grande cape et le pantalon de pluie indispensable. Le truc de téléphone, moi je trouve ça pratique quand même, même si c'est pas très grand, c'est quand même carrément mieux que de l'avoir à la main. C'est
quand même dangereux. Tu parles de quelque chose qu'on pose sur le guidon.
Ouais, on met sur le guidon et on bloque le téléphone avec. Et honnêtement, je me suis dit au début que c'était pas indispensable, que ce soit, enfin, je regarderai l'itinéraire et je me débrouillerai, mais au final, c'est quand même bien bien pratique d'avoir un GPS type voiture, quoi. Mais avec son téléphone. Et dernier truc, les sacs, c'est le dernier achat, les sacs à l'arrière. Je me dis, je porte un petit sac et tout, mais avoir justement le caoué au cas où dans le sac et mettre ce qu'on veut si jamais on a un truc à transporter, bien pratique quand même.
Et surtout, je pense, quand on fait du vélo taf, de ne pas avoir de sac à dos. Enfin, moi, je ne sais pas comment vous transpirez, mais personnellement, quand je fais du vélo avec un sac à dos, c'est vraiment inratable. J'ai une flaque dans le dos, même en hiver. Hein, voilà, peu importe les saisons, donc clairement, de mettre son sac soit sur un panier à l'arrière, soit d'avoir des sacoches adaptées, ça change tout.
Et puis du coup, les sacoches, elles peuvent te permettre d'aller faire tes courses en vélo aussi, donc c'est vraiment... Et puis, tu vas récupérer un colis, tu fais une petite course, c'était pas prévu, hop, dans le panier ou...
Dans les sacoches.
Dans les sacoches.
Je prends des notes, parce que j'ai vraiment rien pour l'instant, je vais acheter tout ce que vous me dites, ça va être
un
terrible.
Un petit tendeur aussi, ça peut aider pour coincer un truc dans le panier ou juste coincer un truc sur le porte-bagages.
De manière anecdotique, mais je viens de me rappeler mes premières sessions de cyclotourisme et un truc qui m'a changé la vie, c'est la banane, le sac banane. D'avoir ses clés, son téléphone ou des trucs comme ça à portée de main directement proche de soi, ça change tout aussi.
Ou avoir une pochette sur le devant du vélo. Moi j'ai une sacoche qui va sur le devant du vélo, en banane, en bandoulière. C'est incroyable.
Et d'ailleurs, il y en a des comme ça où tu peux glisser ton téléphone du coup devant pour faire GPS. Mon beau-frère, oui. Il a ça.
Eh ben, Sophie, j'espère que tu as des sous parce que le cyclisme, c'est pas très cheap comme sport.
Je vais mettre de côté
comme pratique.
C'est toujours moins cher qu'une voiture.
Ouais, ce que j'allais dire.
Et c'est plus écolo. Donc je vais mettre de côté pour avoir ça pendant les 10 prochaines années.
Eh bien, merci pour tous ces échanges. On va faire une petite pause musicale et écouter Magic Pony Ride de Yuzik. On revient ensuite discuter vélo, roues, cyclisme et féminisme juste après.
à savoir. C'est bon de savoir. C'est le Labo des Savoirs.
C'était Magic Pony Ride de Yuzik. Et nous sommes de retour à l'écoute du Labo des Savoirs pour cette émission magazine avec les bénévoles. Le sujet qui nous occupe aujourd'hui, c'est le vélo. Dans le monde du cyclisme, il y a des codes, des vêtements spécifiques, des disciplines différentes qui se concurrencent un peu, des courses connues, des courses d'ultra-distance. Il y a des gens dont le métier est lié à la pratique du vélo et d'autres qui utilisent le vélo de plein de manières différentes. Toutes et tous passés par la case « apprendre à faire du vélo », éventuellement sans les petites roues. Est-ce que vous, vous avez des souvenirs de ces premiers coups de pédale ?
Moi, j'ai un souvenir hyper précis. Mais je pense que c'est un souvenir faussé par les photos d'album. Un souvenir très précis, j'habitais en région parisienne à l'époque. On habitait dans un appartement, dans un immeuble, avec mes parents. Et derrière cet immeuble-là, il y avait une cour partagée par différents immeubles. Donc il y avait un parking rempli de voitures. Mais le dimanche, il n'y avait pas de voitures qui se garaient, puisque toutes les voitures étaient déjà garées. Et donc l'accès à ce parking était... finalement libre. Et donc je me souviens qu'avec mon père, j'apprenais à faire du vélo. D'abord, du coup, avec les petites roues, évidemment. Et le jour où j'ai réussi à enlever les petites roues, quel sentiment déstabilisant de se dire « Ok, en fait, ça ne tient qu'à moi, vraiment. À tout moment, je peux. Mais je ne suis pas tombée. » Donc ça, c'était trop bien. Et après, on gagne en confiance et on a l'impression qu'on a toujours roulé sans petite roue et je trouve ça vraiment incroyable. Donc j'ai une photo de moi, fière comme je sais pas quoi, dans mon album d'enfant, avec mon super vélo rose, évidemment, parce que voilà, il fallait un vélo rose pour une fille, et de super paillettes dessus, et voilà, fière de « ça y est, je suis une grande, je peux rouler sans les petites roues ».
Sophie ? Bah écoute, moi j'avais un vélo jaune. Donc c'était pas mal aussi. Et alors j'ai même histoire. C'est avec mon papa que j'ai appris à faire du vélo. D'abord avec les petites roues, puis il les a enlevées et il m'a expliqué que je ne tomberais pas parce que la physique fait que en allant tout droit et suffisamment vite, je ne pouvais pas tomber. Et donc comme il m'a expliqué la science derrière tout ça, j'étais rassurée bien sûr. Et anecdote, c'était à Nantes, c'était cours des 50 otages. J'ai l'endroit en tête, c'est pas loin d'ailleurs de la radio et du studio où on enregistre actuellement, où j'ai fait mes premiers coups de pédale sans les petites roues. Et alors, ça a duré une après-midi, c'est-à-dire que j'ai fait mes coups de pédale, j'ai su que je ne tomberais pas, que ça y est, c'était bon, j'étais une grande fille. Point ! On n'en parle plus, je sais faire du vélo désormais, c'est trop facile. Et j'ai donc pu avoir mon vélo violet, qui était le vélo d'enfance qui m'a accompagnée après mon petit vélo jaune. Et j'étais très fière.
Waouh, la science. Le pouvoir de la science.
Déjà là.
Surtout que... Enfin, il paraît que c'est pas si stable que ça de base. C'est vraiment une compensation humaine qui fait que on arrive à tenir debout quoi, avec la vitesse et tout ça.
On m'aurait menti.
Ouais. Bah, pas mal de vitesse moi, mais pas. J'ai pas vraiment de souvenir de l'enlever des petites roues. Mais je pense que à peu près toute mon enfance ça a été d'essayer d'aller vite dans des descentes. Donc il y a eu 2-3 chutes. Mais ouais. Même avec le truc qui mesurait la vitesse pendant un temps, donc j'essayais de battre mon record, donc un peu stupide quand même. Mais je me suis bien amusé.
Cécile, t'as envie de partager quelque chose ?
Moi, c'est un peu comme toi, Julie. Je pense que c'est un faux souvenir parce que j'avais ce souvenir que la première fois que j'ai réussi. C'était mon frère et du coup dans mon imaginaire, c'est mon frère qui m'avait appris à faire du vélo alors que toute la famille a participé quoi.
Et moi, j'avais un vélo rouge et blanc que j'avais eu à Noël. J'ai aucun souvenir, mais je suis pas très forte en souvenir. Ce que j'ai comme information, c'est mon père qui, du coup, était la personne qui m'a accompagnée dans ses premiers pas de vélo, qui m'a dit qu'une fois que j'avais réussi, j'ai posé le vélo, j'ai dit c'est bon, je sais faire. Et puis c'était fini pour la vie parce que c'était une compétence qui était acquise. Et puis c'était bon, on n'était pas obligé de recontinuer.
Mais alors, quand est-ce que t'es devenue une mania du vélo ? Parce que maintenant, c'est toute ta vie, le vélo.
Non, c'est un peu moins ma vie. J'ai des phases de vie. Il y a un moment, je tricotais beaucoup. Maintenant, je fais un peu plus de tricot. On passe un peu à d'autres choses. Non, j'ai commencé parce que j'avais envie de faire la Loire à vélo depuis le lycée. Et j'avais jamais trouvé quelqu'un pour le faire avec moi. Et arrivé à, 25 ans, peut-être un peu plus... Je me suis dit, personne ne fera avec moi, donc je vais y aller toute seule. Et du coup, je me suis dit, je vais faire ça. Finalement, j'ai trouvé un copain qui partait
en vacances la même semaine que moi qui voulait faire du vélo. On s'est dit, on va faire la même chose en même temps. Et puis après, il m'a dit, ah, mais tu devrais peut-être t'acheter un autre vélo pour aller plus sur les chemins et tout. J'ai acheté un vélo.
Le
et
début.
Puis après, j'ai commencé à faire du vélo dans des groupes de vélo, à rencontrer des gens, à sortir avec un gars qui fait du vélo. Et voilà, question du coup pour tout le monde, est-ce que au-delà des premiers pas à vélo, vous avez des souvenirs liés au vélo? Parce que moi, quand on a cette discussion, je me suis rappelé que au-delà du moment où j'ai appris à faire du vélo, ce dont je me souviens, ou quand je réfléchis au vélo, je me souviens de mon frère et moi qui suivions nos parents parce qu'ils couraient, du coup ils sont très sportifs, donc ils allaient courir régulièrement le dimanche en forêt, et nous, on ne pouvait pas courir aussi vite qu'eux, évidemment. Donc on était à vélo derrière, et donc c'était génial d'être dans une espèce de course en famille, enfin voilà. Donc ça, c'est mes souvenirs que j'associe au vélo, et je ne sais pas si vous en avez. Sophie ?
Moi, le principal souvenir que j'ai, c'est un été où des amis de la famille nous ont prêté une maison à Belle-Île. Et donc, on a fait du vélo à Belle-Île. Et il y a eu ce fameux après-midi où on arrive à la moitié de la balade. Il y a un énorme nuage noir à l'horizon. Et mon père dit, il faut rentrer maintenant. Et donc, on a fait demi-tour et il fallait rentrer rapidement à vélo avant que l'orage tombe. Et bien sûr, l'orage est tombé. Et donc, il y a cette scène d'enfant que j'ai de moi roulant sous une pluie battante sur des routes de Belle-Île, avec sûrement une ombre maternelle devant moi et une ombre paternelle derrière moi et mes frères et sœurs. Et ça, j'avais l'impression que ça durait des siècles. Et on a fini par arriver en entier. Mais voilà, c'est un des grands souvenirs de vélo d'enfance que j'ai.
Moi, j'étais. Mes grands-parents ont acheté à la naissance de mon petit frère un petit mobil-home sur la côte vendéenne. Et ce qui est très bien, c'est qu'il y a vraiment des bonnes pistes cyclables qui permettent de pouvoir faire du vélo en sécurité. Et pas mal de souvenirs que j'ai, c'est vraiment aller à la plage à vélo et aller manger une glace à vélo, parce qu'en fait, juste tu déroules tes 7-8 km, tu peux aller à la vitesse que tu veux, de toute façon.
L'indépendance, quoi.
Voilà. Et du coup, c'est vraiment ces moments-là. Et puis, un vélo un peu plus grand. Et puis.
Alors, moi, j'ai pas des jolis souvenirs comme ça, mais j'ai une anecdote rigolote. Je pense que j'étais pas une très grande cycliste, j'utilisais pas beaucoup mon vélo parce que quand j'étais petite, on pouvait aller à pied à peu près partout. Mais de temps en temps, je le prenais quand même. Et un jour, je l'ai perdu. J'ai perdu mon vélo, donc j'étais chez moi, je me dis, ah bah tiens, je vais aller quelque part en vélo, je vais dans le cabanon, pas de vélo.
Il n'est plus là.
Et j'étais là-bas. Et en fait, plus tôt dans la semaine, j'avais eu mon cours de solfège auquel j'avais été en vélo. Et comme j'avais pas l'habitude, j'étais rentrée à pied. J'avais laissé le vélo à l'école de musique. Et bon, j'y suis retournée, il était là, il m'attendait sagement.
Moi, en anecdote, pas mal de souvenirs quand même de famille aussi, les balades avec mon père, mon frère, pas mal. Ça, les pentes aussi. J'ai quand même des souvenirs un peu de toutes les pentes que j'ai tentées. Et en anecdote marrante, on a un été, on est allé avec des amis sur l'île d'Oléron, où une amie avait une maison. Et elle avait des vieux vélos. Et on s'est dit, on va à la plage avec ces vélos-là, sauf qu'ils étaient vraiment vieux. Et donc, les selles étaient très, très vieilles. Et donc, rester sur la selle, c'était insupportable, des douleurs directes. Et donc, j'avais fait tout en danseuse et j'arrivais à avoir mal sous les pieds tellement on avait évité la selle, quoi. Donc
ah
voilà,
ouais.
Petite anecdote.
Alors, pour contrer ça, il existe le short rembourré ou la selle sur mesure. Mais parfois, on ne trouve pas toujours chaussures à son pied en termes de vélo, notamment lorsqu'on est une femme. Beaucoup de vélos ou de pratiques ne sont pas ou peu adaptés aux filles et aux femmes actuellement. Des vélos trop grands, des vélos trop larges, des lieux ou des moments de pratique peu accessibles, la peur d'être seule dehors et j'en passe. Mais il y a des collectifs, des associations qui font bouger les lignes pour rendre la pratique du vélo plus accessible. Et c'est ici que moi je vous laisse avec Julie qui a exploré le cyclisme au féminin.
Et moi, je ne vais pas parler de pratiques de cyclisme féminin ou de vélo adapté pour les femmes, mais plutôt de comment ce petit engin à deux roues non motorisées, que l'on apprécie tous autour de la table, a été et est un allié extraordinaire dans l'émancipation des femmes. Historiquement, à partir du moment où le vélo de sécurité est apparu, donc Étienne en a parlé précédemment dans l'émission, le vélo s'est démocratisé et de plus en plus de monde a pu s'y mettre, dont les femmes. Sauf qu'à l'époque,
Le port du pantalon était interdit pour les femmes et ce n'était pas très pratique de faire du vélo avec une énorme robe ou une énorme jupe, vous imaginez bien. Petit à petit, la pratique du vélo féminin a contribué à faire changer les normes vestimentaires que l'on impose aux femmes et le bloomer est apparu. C'est une sorte de pantalon lâche et ample, resserré aux chevilles, qui permet de faire du vélo, enfin, librement. Par ailleurs, l'essor du vélo permettait également de sortir du foyer domestique. Donc ça y est, les femmes pouvaient plus facilement investir l'espace public et être autonomes. Mais pourtant, de nos jours, la pratique du vélo dans l'espace public n'est pas encore paritaire. David Sayag, qui est devenu docteur en urbanisme et sociologie en 2018, a consacré sa thèse à la question « Pourquoi les adolescentes ont moins de possibilités réelles de faire du vélo que les adolescents ?» Pourquoi se concentrer sur les ados ? Parce que l'un des constats de l'enquête nationale Transport et déplacement de 2008 est que les pratiques de vélo se creusent surtout entre les classes d'âge de 11 à 16 ans, donc à l'adolescence, entre lesquelles la probabilité de déclarer une pratique régulière ou occasionnelle décroît, donc baisse, de manière beaucoup plus prononcée chez les filles. Cette même enquête, cette fois en 2018, montre toujours que les garçons pratiquent davantage le vélo que les filles, sur la tranche d'âge 6 à 17 ans, avec presque 6% des déplacements effectués à vélo pour les garçons, contre seulement 1% par les filles. Une des explications apportées par David Sayag est que l'adolescence est souvent marquée par un renforcement des pratiques éducatives sexuées qui impactent la manière qu'on a d'investir l'espace public. Dans une de ses enquêtes sociologiques, le chercheur a interrogé des ados de 17 à 18 ans ainsi que leurs parents, en confrontant l'évolution de leurs pratiques et les pratiques éducatives des parents. David Sayag montre trois choses chez les filles. Premièrement, il y a un renforcement à craindre de se déplacer seule. Donc, les filles pratiquant seules le vélo pour aller au collège sont rares. Elles se retrouvent davantage accompagnées en voiture, alors qu'elles utilisaient autant que les garçons leur vélo dans l'enfance. Deuxièmement, un renforcement à craindre de s'aventurer dans les espaces inconnus, alors que cela n'était pas le cas avant, dans l'enfance. David Sayag indique ici, je cite, « Elle se voit plus fréquemment interdire formellement ou dissuader de sortir du quartier de résidence ou du village, et elles sont par ailleurs plus souvent poussées à communiquer leur itinéraire précis à leurs parents, et se voient plus systématiquement dissuadées de se rendre dans un lieu lorsqu'elles ne connaissent pas l'itinéraire. » Enfin, un dernier renforcement est celui des craintes à stationner, à « traîner » entre guillemets dans l'espace public. L'enquête montre même, je cite, « que le clivage est tel qu'aucune fille de l'échantillon n'a continué à s'adonner durant l'adolescence à des mobilités de stationnement. Même en présence d'autres filles, aucune n'est encline à pratiquer le vélo en occupant une place, un parking, les abords de son lycée ou une aire urbaine dédiée comme des skateparks. » Au-delà des pratiques éducatives sexuées, d'autres freins existent lorsque plus tard les femmes veulent utiliser le vélo pour leurs déplacements quotidiens. Claire Pelgrims, docteur en urbanisme, explique d'après ses travaux que, je cite, « les femmes ont tendance à réaliser au quotidien des trajets plus courts, mais plus nombreux, entre la crèche, l'école, les magasins, le travail, parce qu'elles restent majoritairement en charge de l'accompagnement des enfants et du maintien du ménage en plus de leur emploi. » Sauf que ces déplacements en chaîne sont perçus par la majorité des femmes comme plus difficiles à réaliser à vélo, et donc elles utilisent moins le vélo, et davantage la voiture. Le vélo est un mode de transport d'avenir, et l'on voit bien les efforts faits au niveau politique et territorial pour faciliter cette pratique. Mais lorsqu'il s'agit d'augmenter la proportion des individus à pratiquer le vélo pour se déplacer, il ne suffit pas de mettre en place des pistes cyclables, d'organiser des cours pour apprendre à faire du vélo ou d'en subventionner l'achat. Évidemment, c'est super, mais avec le travail de tout un pan de l'urbanisme et de la sociologie comme celui de David Sayag et de Claire Pelgrims, on voit bien que cette pratique de vélo croise d'autres enjeux beaucoup moins perceptibles à première vue, notre capacité en tant que femme à être à l'aise et confiante dans l'espace public, ce qui dépend clairement du sexisme ambiant, et notre charge mentale domestique. Donc des politiques publiques qui luttent contre le sexisme et le harcèlement de rue, et pas juste avec des tracts, vont de fait avoir des impacts indirects bénéfiques sur d'autres domaines, comme le nombre de femmes sur des vélos demain.
Merci Julie pour ta chronique. En complément de ça, le 9, 10 et 11 mai dernier, à Nantes, se tenait le festival Increvable en scène à la Générale. Ce festival de cycloféministes était la première édition organisée par l'Association nationale des Increvables. Sophie et Julie, respectivement cofondatrices et secrétaires de l'association, nous ont raconté au micro de Sophie pourquoi féminisme et cyclisme, ça avait du sens ensemble.
Donc je suis Julie, secrétaire de l'association des Increvables en selle.
Moi c'est Sophie, je suis la cofondatrice des Increvables en selle.
On ne savait pas du tout à quoi s'attendre pour cette première édition de l'Increvable Festival. On a eu à peu près 70 personnes sur toute la journée, donc on peut dire que c'est une réussite. Et puis ça s'est terminé par une soirée de projection de nos deux Increvables courts-métrages. Et puis un film qui s'appelle Woman Don't Cycle de Manon Brullard.
Et vraiment, la salle de projection était complètement pleine. Donc on est très contentes de cette première journée.
C'était aussi des participants très éclectiques. Il y avait des gens du quartier qui sont entrés par curiosité, des gens qui sont des habitués de la Générale, le lieu qui nous accueille pour ce festival. Et puis des habitués du cycloféminisme, des gens qui adorent le vélo et qui s'intéressait au vélo, au féminin aussi sur Nantes.
Alors justement, ce festival cycloféministe, quel rapport entre le vélo, les femmes, leur émancipation et pourquoi faire un événement comme ça ?
Si je peux expliquer un petit peu la genèse de l'asso, donc c'est un trio d'amis qui s'est formé autour de ces questions que tu viens de nous poser. Morgane Gano, qui est illustratrice, Lucie Sago-Duvorou, qui est mécanicienne vélo et accompagnatrice vélo spécialisée en sport et handicap, et moi-même, Sophie Garner-Roberts, qui avait une formation de journaliste. Et on avait tout un peu ce désir de savoir mais comment le vélo, quelle est la place du vélo dans le monde un peu ou l'histoire des femmes et du féminisme. Et on a commencé un grand travail de recherche, d'archives. Donc on a découvert que le vélo a toujours été en fait un allié, un outil de leur émancipation, un moyen pour elles d'occuper l'espace, de se déplacer, de se réapproprier leur corps dans un monde qui a toujours été très patriarcal, très dominé par les hommes, surtout le vélo. Un petit peu par hasard, on a fait cette rencontre avec Laetitia, qui est une femme qui a été victime d'une tentative de féminisme et qui est en situation de handicap suite à cette tentative, mais qui a exprimé le souhait de repartir à vélo, de partir en voyage à vélo. Et donc on a souhaité épauler ce projet avec les Increvables et on a organisé donc ce premier cyclo-voyage auquel Julie a participé. On l'a documenté, on a produit un film et voilà, on est lancé sur un gros projet de documentation en vidéo. On a produit un deuxième film suite à un deuxième cyclo-voyage. Voilà, le festival est un petit peu l'aboutissement de ces... ça fait 5 ans qu'on existe et donc c'est vraiment l'aboutissement de cette réflexion, ce travail. Et le film permet d'ouvrir en fait des espaces de dialogue, d'échange et de sensibiliser les personnes qui ne sont pas vraiment sensibilisées à ces questions-là justement.
L'Increvable Tour, c'est le projet phare des Increvables et donc ça s'est monté avec Sophie et Laetitia et c'était un défi à vélo contre les violences conjugales suite à la tentative de féminicide qu'a vécu Laetitia. Donc on était plusieurs participantes à partir, à avoir vécu des violences et ce tour c'était à la fois une épreuve physique puisque on avait donc un vélo tandem adapté pour Laetitia qui mandalait à l'avant et Lucie pédalait derrière et donc c'était une épreuve physique. On faisait Nantes-Noirmoutier en 3-4 jours sous la canicule du 14 juillet. Mais c'était aussi un moyen de nous réapproprier notre corps. On était donc un groupe de femmes, donc il y a des choses qui se passent, des récits qui se font, qui permettent aussi la réparation, qui permettent aussi une résilience, un effet de groupe qui fait du bien en fait, c'est du soin aussi. Une question qui vient souvent, c'est est-ce qu'on s'arrêtait à certains endroits pour rencontrer des gens ? La réponse, c'est non, puisque en fait, c'était vraiment pour créer un espace un espace de sécurité sécurisant où on puisse apprendre à se connaître, rentrer dans les intimités aussi de chacune et puis créer vraiment un lien assez fort qui a été retraduit par notre film puisqu'on filmait aussi ce voyage et c'est l'outil ensuite le film, la vidéo, le court-métrage qu'on utilise pour aller à la rencontre des gens et parler de ces questions de sport et handicap, de cycloféminisme et puis des violences aussi.
Et rien qu'hier soir, après la diffusion des deux films, on a une personne qui a levé la main et qui a dit bah, « Vous organisez quand le prochain? Est-ce que je peux venir ?» Donc c'est vraiment, ça touche, à chaque fois ça touche. Même moi, en fait, à chaque fois que je vois le film, j'ai de l'émotion. Hein. Ça touche beaucoup de monde. Ouais.
J'ai vu qu'il y avait des ateliers de réparation de vélo. Est-ce qu'il y a aussi ce côté émancipation, de ce côté-là, de réussir à se dire que le vélo, c'est quelque chose qu'on va maîtriser de bout en bout et qu'on va pouvoir le réparer?
À la fois, le vélo sert pour s'émanciper, mais aussi pour s'autonomiser, en fait. C'est là-dessus qu'on travaille avec les increvables. C'est pour ça que souvent sur nos rencontres, en fait, il y a un atelier d'autoréparation pour apprendre à connaître son vélo et à faire les petites réparations utiles en voyage, et puis à se familiariser et surtout à avoir envie de le faire soi-même, parce que c'est pas si compliqué que ça, c'est juste qu'il faut prendre sa place. Et c'est aussi ça, les increvables, c'est prendre sa place dans l'espace, en tant que femme et en tant que femme à vélo. Je peux raconter une anecdote. Sur le tour, on avait deux voire trois mécaniciennes vélo. Donc on était plutôt autonomes. et en fait, parfois on a crevé, hein, ça arrive sur le parcours. Et puis on avait parfois des messieurs qui venaient nous voir pour nous dire vous avez besoin d'aide, je vais vous aider à changer la roue, etc. Et en fait, c'était des personnes qui étaient pas du tout cyclistes ou pas vraiment adepte du vélo finalement. Et en fait, tout d'un coup, il voyait voilà, ces trois femmes comme ça qui s'agitaient, et bam, la roue est changée. Non merci, on n'a pas besoin d'aide. Et ça aussi, c'est pas qu'on n'ait pas envie d'avoir de l'aide, mais c'est que ça fait plaisir en fait de se dire voilà, on arrive à le faire, on peut le faire, et ça apporte une certaine satisfaction et un sentiment de liberté aussi.
C'est notre message, hein, c'est qu'il faut pas un vélo très cher, il faut pas le dernier équipement, pas forcément des grandes connaissances, il faut voilà se faire confiance, partir. Si on hésite, partir avec un groupe. Nous, on sait qu'un groupe de femmes, c'est quand même vraiment 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 cool. Après, nous, voilà, on espère dans nos actions futures organiser d'autres événements, peut-être des sorties un peu plus courtes, pas forcément sur plusieurs jours. C'est un peu des projets qu'on a, donc voilà, pas hésiter à partir, avoir confiance en soi et le faire, quoi.
Nous venons d'entendre Sophie et Julie de l'association Les Increvables au micro de notre Sophie. Pour conclure cette émission, je voulais vous recommander quelques livres. Si vous avez envie de recommander un film, podcast, itinéraire ou festival à partager, c'est également le moment. Moi, j'ai un livre à vous recommander qui s'appelle « À vélo » de Adrien Zamy, qui s'appelle « L'encyclopédie pratique et joyeuse », qui est un livre tout dessiné, assez doux, avec beaucoup de choses, que ce soit sur l'anatomie du vélo ou sur les usages ou les petites réparations, les petits réglages du quotidien. J'ai plein d'autres références que je vous mettrai en description de l'émission.
Alors, c'est pas forcément une référence documentaire, mais une référence expérientielle. Pour avoir fait quelques véloroutes à vélo, si jamais vous avez envie, mais vous avez un peu peur, vous savez pas trop à quoi ça ressemble de faire du cyclotourisme, etc., la Vélodyssée, donc la véloroute qui parcourt toute la côte atlantique, est vraiment formidable, adaptée à tous les niveaux. Elle est sécurisée, donc c'est souvent, enfin vraiment à 99% du temps, c'est des pistes en dehors de la route. Donc c'est formidable, le paysage est magnifique. Voilà, je ne pourrais que vous recommander de la faire.
Merci Julie. C'est déjà la fin de cette émission. Merci à Étienne, Cécile, Julie pour leur chronique et à Sophie pour ces échanges. Merci à Sophie et Julie des Increvables et à Sylvie d'avoir accepté de répondre à nos questions au micro de Sophie et Cécile, et de nous avoir parlé de handicap et de cycloféminisme pour ouvrir nos horizons de pensée. Cette émission a été réalisée par Pierre Martin, préparée et animée par Célie Dubost et Sophie Potvin. Vous pouvez nous écouter sur vos applications de podcast. Retrouvez-nous sur labodessavoir.fr ou nos réseaux sociaux, et on vous dit à la semaine prochaine pour une nouvelle émission.
101.5 FM.